Salut à vous. Une très bonne fête des trompettes. On est rendu à ce jour spécial. Et cette fête, elle se situe en plein milieu des sept fêtes de Dieu. Il y a trois fêtes avant et il y a trois fêtes après. Et si vous regardez les événements que ça représente, ça signale le bouleversement ou la transformation, le point central, si vous voulez, de l'accomplissement du plan de Dieu. Alors, le titre de mon sermon aujourd'hui, Signification de la fête des trompettes. Reportez-vous, s'il vous plaît, au livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 4. On va voir la directive générale que Dieu a donnée concernant ses lois et concernant ses fêtes. Ça, c'est la directive générale qu'il a donnée à Israël et qui s'applique à nous. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Pour eux, c'était un pays physique à l'époque, alors que pour nous, c'est la vie éternelle qui nous attend. Verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Et dans le sermon, je vais vous montrer des choses qui ont rapport à ça, qu'on a besoin de savoir. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Autrement dit, Dieu dit, faites simplement ce que je vous ordonne de faire. Vous savez, l'Église de Dieu n'est pas la seule à observer aujourd'hui la fête des trompettes. Il y a d'autres églises et d'autres groupes qui observent cette fête, mais avec des vues différentes, avec des compréhensions différentes et des façons de faire qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, chez les Adventistes qui observent le jour du sabbat, certains ont commencé à célébrer les jours saints, y compris la fête des trompettes. Les Juifs orthodoxes observent la fête des trompettes. Les Juifs messianiques observent la fête des trompettes. Et pour leur part, la plupart des groupes protestants n'observent pas les fêtes divines ni la fête des trompettes, mais ils en retiennent une certaine idée par rapport au retour du Christ. Ils parlent du retour du Christ. Ils ne comprennent pas tout, mais ils parlent du retour du Christ. En même temps, plusieurs d'entre eux croient à tort que le Christ, lors de sa venue, va enlever les croyants pour les amener au ciel, ce qu'on appelle l'enlèvement secret. Dans le message, nous allons voir quelques-unes de ces idées en les comparant à ce que la Bible dit vraiment. Si on se reporte à Lévitique 23, on voit que c'est le chapitre où Dieu décrit ses fêtes. Lévitique 23, ces fêtes sont les étapes de son plan. Lisons le verset 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. » Et c'est pour ça qu'on se présente physiquement devant lui aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas malades et qui peuvent se rendre sur place, c'est formidable. C'est ce qu'on fait. Et ce faisant, on honore notre Dieu. Ce seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et après, il donne la liste de ces fêtes, les saintes convocations. Et nous savons, par Zacharie 14, par exemple, que dans le monde de demain, les nations vont apprendre à observer ces mêmes fêtes de l'Éternel. Maintenant, pourquoi les Juifs qui observent la fête des trompettes ont des croyances et des pratiques différentes de nous? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? D'où ça vient? Vous allez voir que l'histoire nous enseigne d'où ça vient. Écoutez, dans tout l'Ancien Testament, seulement trois courts versets décrivent la fête des trompettes qu'on célèbre aujourd'hui. Dans tout l'Ancien Testament, Lévitique 23, versets 23 à 25, lisons ces trois courts versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le septième mois, le premier jour du mois, comme aujourd'hui, Vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, un sabbat ne travaille pas. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Si on ne le fait plus parce que le sacrifice parfait, il a été fait. Alors, comme on voit, il y a peu d'informations ici et ailleurs dans tout l'Ancien Testament pour expliquer comment observer la fête d'une certaine façon, mais surtout pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et les Juifs ne l'ont pas compris et ne le comprennent pas encore. Ils savaient que le son de la trompette était utilisé pour des circonstances spéciales, le couronnement d'un roi, par exemple, ou quand c'était le temps pour que les tribus d'Israël changent d'endroit, ou pour avertir d'un danger, ou quand c'était le temps d'une fête, comme aujourd'hui. On voit ça dans Nombre 10. Alors, je vais plus loin. Pourquoi les Juifs ont-ils des croyances et des pratiques différentes de nous par rapport à l'observance des trompettes? La raison est très, très simple et c'est important de la comprendre. Parce qu'ils ne croient pas au Nouveau Testament. Parce qu'ils ne croient pas au Nouveau Testament. Et c'est le Nouveau Testament qui nous donne de comprendre le sens de la fête des trompettes, pourquoi on l'observe et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ils n'ont pas cette compréhension-là parce que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Vous comprenez, vous êtes ici et vous comprenez parce que vous obéissez. Et plus nous obéissons, plus Dieu nous donne de comprendre. D'ailleurs, c'est intéressant, reportez-vous à Ésaïe chapitre 8, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 8, on va voir que l'annonce du Nouveau Testament a été faite dans l'Ancien Testament. Ça annonce exactement qu'il y aurait un grand document décrit pour expliquer les choses. Ésaïe chapitre 8, et lisons le verset 16. C'est une annonce de la venue plus tard du Nouveau Testament à notre époque. Enveloppe cet oracle, Ésaïe 8, verset 16. Enveloppe cet oracle, ce que je dis. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Si on porte pas attention, on se demande ce que ça veut dire. Mais ça, c'est l'annonce que plus tard viendrait un temps où il y aurait le Nouveau Testament, où les serviteurs de Dieu allaient faire connaître le témoignage du Père, le témoignage du Père et du Christ. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation. Et le mot hébreu utilisé pour le verbe sceller ici, ça veut dire complète ou achève. Autrement dit, la prophétie, c'est achève ce que je mentionne ici dans l'Ancien Testament, achève-le par mes disciples dans le futur. C'est l'annonce de l'existence à venir du Nouveau Testament, ce que nous connaissons. Et c'est justement pour ça que nous pouvons comprendre ce que représente la fête des trompettes et ce qu'elle annonce, ce qu'eux ne comprennent pas vraiment. Souvenez-vous, pour comprendre le contexte, que les Juifs avaient été amenés en captivité à Babylone. Ça avait été terrible. Puis, ils sont revenus, après plusieurs années, à Jérusalem, sous Esdras, pour reconstruire le temple, et ainsi de suite. Ils ont alors recommencé à observer les fêtes, y compris la fête des trompettes, avec un zèle incroyable. Parce que Ézéchiel, dans Ézéchiel 20, vous pourrez vous y reporter, mais je vais vous lire moi-même. Dans Ézéchiel 20, versets 13 à 15, Ézéchiel les avait avertis de ce qui allait venir et leur avait dit la raison de leur malheur terrible. Il a écrit, « Vous avez souillé, c'est Dieu qui parle, vous avez souillé mes sabbats et vous avez souillé mes jours saints. » Alors, Ézéchiel a dit pourquoi les Israélites avaient tellement souffert. Lors de leur captivité, les Juifs avaient à ce moment-là appris une grande et très amère leçon qu'on ne doit pas jouer avec les fêtes de Dieu, qu'on doit les observer, qu'on doit les garder. Et ils avaient tellement souffert parce qu'ils avaient rejeté Dieu et ses fêtes et ses lois que quand ils ont commencé à les observer de nouveau, ils sont allés à l'extrême. Ils n'ont pas fait seulement ce que Dieu demandait. C'est là qu'ils ont ajouté plein de choses, en se pensant bon, pour se donner raison, si vous voulez. Ils ont été très rigoureux et c'est là qu'ils ont ajouté des choses non commandées qui sont devenues, comme la Bible dit, des traditions d'hommes. Parce qu'il y a peu de précision, comme on a vu dans l'Ancien Testament, pour expliquer ce que représente la fête des trompettes. Le docteur Douglas Winnail a déjà expliqué que les rabbins ont fouillé l'Ancien Testament pour trouver des réponses, pour avoir une idée de ce que signifie la fête des trompettes, mais ne l'ont jamais compris, Et ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est qu'ils ont simplement regardé dans le passé. Ils n'ont pas regardé vers ce qui vient et puis le Nouveau Testament qui donne les réponses à ça. Ils ont regardé leur histoire dans le passé. Ils ont vu que la trompette était utilisée, avait été utilisée dans des circonstances spéciales, comme quand Dieu a donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï, comme quand ils ont pris Jéricho au son des trompettes et ainsi de suite. Alors, ils comprenaient ces choses-là, mais ils n'en comprenaient pas le sens en ce qui concerne la fête des trompettes. Et ce qui arrive, c'est que les Juifs lisent ces passages concernant la loi donnée sur le mont Sinaï, la prise de Jéricho. Ils lisent ces passages au moment de la fête des trompettes, toujours en examinant le passé, mais sans comprendre ce que ça veut dire, pour toujours essayer de comprendre la signification, mais en vain. D'ailleurs, et je vais peut-être vous surprendre, mais c'est important de savoir. D'ailleurs, les Juifs appellent la fête des trompettes comment? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible le nom de la fête des trompettes comme étant Rosh Hashanah. Pourtant, les Juifs appellent cette fête Rosh Hashanah. Ils ne l'appellent pas fête des trompettes. Ça vient d'où? Ça vient de leur passé. Je vais vous expliquer. Ça vient de leur passé. Ça vient de leur Torah juive. Et leur Torah juive, c'est un commentaire écrit par eux au sujet des Écritures. Voyez-vous, ce sont des interprétations qu'ils ont écrites. Et ce texte remonte au temps de leur captivité à Babylone. Et vous allez voir parce que Rosh Hashanah, ça veut dire la tête de l'année ou le commencement de l'année. Et pour les Juifs, le début de l'année civile juive, c'est comme aujourd'hui. Début de l'année civile, c'est comme aujourd'hui. Rosh Hashanah. Mais vous savez que le calendrier sacré et les fêtes divines commencent au printemps, avec la Pâque et les pains sans levain. Ça commence pas à l'automne. Absolument pas. Ce qui est arrivé, c'est que les Babyloniens, eux, commençaient la nouvelle année à l'automne. Et ils célébraient alors leur nouvel an, si vous voulez. Et les Israélites en ont fait leur nouvel an à partir de leur séjour chez les Babyloniens. Et c'est là qu'ils ont remplacé le mot « fête des trompettes » par « Rosh Hashanah ». C'est venu de leur captivité et ça vient des Babyloniens. Ça, c'est la tradition juive. C'est non biblique. Je vous donne ces éléments-là parce que ça n'arrive pas souvent qu'on entre dans ces détails-là qui ont une grande importance quand même pour qu'on se situe, nous, qui avons le privilège de connaître la vérité et d'en vivre au mieux. Voyons d'autres traditions, vous allez voir, c'est frappant. Voyons d'autres traditions juives qui ont été ajoutées, justement, aux fêtes. Vous savez qu'il y a 10 jours entre la fête des trompettes et la fête des expiations. Les Juifs appellent ces 10 jours-là les 10 jours de jugement. Et pour eux autres, c'est une période d'examen d'eux-mêmes. Une période où ils font certaines prières précises et ils font certaines bonnes actions. Pourquoi? Pour se justifier devant Dieu, pour se rendre juste devant Dieu. Ce sont des rituels totalement humains qui ne sont pas du tout liés au sens de la fête des trompettes biblique. Selon les Juifs orthodoxes, durant ces 10 jours, il y a des livres qui sont ouverts dans le ciel, d'après eux. 2 livres spéciaux. Le livre des justes et le livre des méchants. 2 livres. Et si vous faites assez de bonnes choses durant ces 10 jours-là, votre nom pourra être inscrit dans le livre des justes et non dans le livre des méchants. Regardez sur quel tracé non biblique que ça les amène à penser dans ce sens-là. Parce que c'est clair que les Juifs ne comprennent pas. 1, parce qu'ils ne sont pas appelés, et 2, parce qu'ils n'acceptent pas le Nouveau Testament, qui nous donne des réponses. Regardez 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, s'il vous plaît. C'est très clair dans le 2e livre des Corinthiens. Chapitre 3, et nous allons lire simplement le verset 14. Mais ils, les Israélites, les Juifs, mais ils sont devenus durs d'entendement. Voyez-vous, ils ne comprennent plus. Ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où Paul a écrit, et c'est la même chose aujourd'hui, jusqu'à ce jour, le même voile, le voile qui les empêche de comprendre le sens et le but de la fête des trompettes, comme le but de d'autres fêtes, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils regardent le passé et ils restent attachés. Et ils ne se lèvent pas, le voile n'est pas levé pour eux, parce que c'est en Jésus-Christ qu'il disparaît. Voyez-vous, il faut accepter et connaître le Christ et ses enseignements transmis dans le Nouveau Testament par ses serviteurs pour être capable de comprendre. S'il n'y a pas ça, la compréhension n'est pas là, ce qui est le cas des Juifs. Le voile n'est pas levé tant qu'ils ne croiront pas au Christ et au Nouveau Testament. Je vous donne une autre tradition juive chez les orthodoxes et chez certains messianiques durant ces 10 jours. C'est incroyable. Manger du pain et des fruits trempés dans le miel durant ces 10 jours-là. Parce que ça signifie l'espérance que l'année à venir va être douce et bonne. C'est pas biblique, c'est leur tradition. Autre tradition, certains vont se saluer durant ces 10 jours-là en disant « Soyez inscrits dans le livre des bons, pour que votre année soit bonne. » Vous, c'est rattaché à leur croyance. Une autre tradition, c'est d'aller près d'un lac, ou près de la mer, ou près d'une rivière, puis d'y jeter du pain. Et regardez bien ce que ça veut dire selon eux. Vous pouvez faire des recherches, c'est facile de vérifier. Jeter du pain à l'eau, à ce moment-là, ça symbolise, selon eux, se débarrasser de leur faute. C'est fort, hein? Se débarrasser de leur faute, se donner bonne conscience, de dire « je me suis débarrassé de mes péchés ». Ce n'est pas biblique, absolument pas, je le sais, vous le savez. Selon un rabbin, les Juifs sonnent de la trompette le jour de Rosh Hashanah, ça c'est fort, pour mêler Satan, pour confondre Satan. Oui, 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 c'est fort là. Selon eux, au moment où le nom des Juifs doit être inscrit dans ces livres-là, Satan se présente devant Dieu pour les accuser. Alors, selon les Juifs, si plusieurs trompettes sonnent à ce moment, Satan est mêlé. Satan est confus, il y a trop de trompettes en même temps et il ne peut pas accuser les bonnes personnes. Alors, c'est leur interprétation des trompettes pour la fête des trompettes. Paul parle de certains Juifs à son époque qui venaient à l'Église et amenaient beaucoup de leur tradition. Allez au livre de Tite, s'il vous plaît. Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1, versets 13 et 14. Paul parle de ces gens, ces Juifs qui arrivaient à l'Église de Dieu en amenant leur tradition et en voulant les imposer. Il dit, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Alors, écoutez, ça, c'était un avertissement pour eux, mais c'est en même temps un avertissement pour nous. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent parfois, et c'est arrivé quand l'Église universelle a implosé, c'est arrivé à certaines personnes, et ça arrive encore malheureusement de nos jours. Certains disent, voyons comment font les Juifs messianiques, par exemple, et imitons-les. Certains ont fait ça et ont perdu leur route, ne sont plus dans l'Église. Ils ont suivi cette fausse route-là parce qu'ils pensaient avoir découvert quelque chose de nouveau, quelque chose d'important et quelque chose de vrai. Mais vous allez voir, ce n'est pas le cas du tout. On a commencé à le voir déjà. Leur conception des fêtes de Dieu ne sont pas réalistes selon la Bible. Paul est clair à ce sujet. On vient de le voir. Il dit « Ne portez pas attention aux fables judaïques et aux traditions juives. » Pas aux choses de la Bible, mais aux traditions juives. Ça ne vient pas de la Bible, ça a été ajouté. Ça vient de Babylone et ça vient de certaines pratiques du Moyen Âge. Les Juifs messianiques croient en Jésus-Christ, bien sûr, et ils croient au Nouveau Testament. Et c'est ça qui est trompeur pour certains. Ils pensent qu'eux autres ont des choses à nous apporter. Ils reconnaissent même, en gros, que les jours saints représentent des étapes dans le plan de Dieu. Ils reconnaissent jusqu'à un certain point que les fêtes d'automne représentent des événements à venir, même si c'est pas clair, clair. Pour plusieurs messianiques, la fête des trompettes, c'est un temps de jugement, un temps de rassembler les serviteurs de Dieu. D'ailleurs, il y a deux Juifs messianiques qui ont écrit un volume qui s'appelle « The Feast of the Lord », M. Howard et M. Rosenthal. Et regardez bien ce qu'ils écrivent. Honnêtement, ils disent ce qu'il y en est. Je cite, « À la suite de la destruction du Temple à Jérusalem, en l'an 70 de notre ère, l'observance de la fête des trompettes fut beaucoup modifiée. Le Temple avait été détruit, les Lévites étaient dispersés, la léthargie s'était installée. Et c'est alors que de nombreuses nouvelles traditions furent ajoutées. » Voyez-vous, ces deux Juifs messianiques reconnaissent ce fait dans leur livre. Et c'est là que Rosh Hashanah a graduellement remplacé la fête des trompettes et qu'ont été mis en place toutes les traditions que je vous ai données tantôt. Même si ces Juifs messianiques reconnaissent le Nouveau Testament, il ne leur est pas donné de vraiment comprendre pour l'instant, comme les Adventistes. Il y a aussi un ministre et écrivain messianique du nom de Sam Nidler, comme d'autres Juifs messianiques, qui dit que la fête des trompettes, c'est un jugement terrible à la venue du Christ. Mais il continue en disant que la fête des trompettes, c'est aussi l'enlèvement de l'Église. Alors, voyez-vous où ces choses-là débordent. L'enlèvement de l'Église. Selon lui, il y a des millions de gens qui vont disparaître soudainement, qui vont être enlevés et qui vont disparaître dans les nuées. Je cite un passage de M. Nidler. L'enlèvement de l'Église va se produire. Des millions de gens disparaîtront et la dernière trompette marquera le début de la tribulation de 7 ans. Alors, on sait que la tribulation, c'est pas 7 ans, c'est 3 ans et demi, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, voyez-vous, c'est le Nouveau Testament qui donne la dimension manquante pour comprendre la signification de cette fête. Pour comprendre cette fête-là, il faut voir quelle vision a été donnée à l'apôtre Jean des événements qui sont juste devant nous et qui expliquent la fête des trompettes, à partir justement de ce que l'apôtre Jean a écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et ce que Jean a vu, ça correspond exactement à ce que le Christ avait décrit 60 ans plus tôt sur le mont des Oliviers, quand les disciples lui ont posé la question « À quel signe on connaîtra que ton retour est proche? » Il avait parlé des faux prophètes, des guerres, des famines, des pestes, la tribulation et des signes célestes. Il avait donné cette liste. Maintenant, voyons, pour aller plus loin, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 1, la séquence générale de ces événements-là. Apocalypse, chapitre 1. Lisons le début du verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ça, ça s'adresse surtout à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Maintenant, versets 9 et 10. Voyons en ce qui concerne la vision de l'apôtre Jean. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et regardez, je fus saisi par l'Esprit, par la puissance de Dieu, au jour du Seigneur. » Il y a eu une vision du jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, et ainsi de suite, écrit ces choses dans un livre. Alors, le jour du Seigneur, ici, on le sait par la Bible, ce n'est pas le dimanche, comme les théologiens le prétendent. C'est le jour de la colère de Dieu. C'est une année. C'est la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse. Ça, c'est l'année de la colère de Dieu. On le voit dans Ésaïe, chapitre 2. Allez au livre d'Ésaïe, chapitre 2, s'il vous plaît. Très clair. Ésaïe 2, on va lire le verset 12. « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. » Et regardez à partir du verset 19, « On entrera dans les cavernes des rochers, et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. » Parce que là, le Christ va paraître avec force et autorité. « Quand il se lèvera pour effrayer la terre, en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. » C'est très clair. Il y a plusieurs versets qui disent la même chose. On va en voir seulement un pour compléter ici, dans Sophonie. Sophonie, au chapitre 1. Sophonie, chapitre 1, un peu avant le livre de Zacharie. Sophonie, chapitre 1, commençant au verset 14. On parle du même jour de l'Éternel, la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourra les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé et il détruira soudain tous les habitants du pays. » Alors voici en résumé la description du jour de l'Éternel. Je vais passer plus rapidement dans les autres chapitres, mais au chapitre 4 du livre d'Apocalypse, vous pourrez poursuivre votre étude. Au chapitre 4 d'Apocalypse, c'est la vision de la salle du trône de Dieu. C'est décrit en détail et c'est tellement beau à voir. Ça, c'est au chapitre 4 du livre d'Apocalypse. À présent, au chapitre 5 de l'Apocalypse, Jean voit un rouleau dans ce chapitre-là, scellé de 7 sceaux. Et on voit que Jésus va ouvrir ces sceaux-là un après l'autre, un à un. Et chacun de ces sceaux-là va ouvrir la porte à une calamité importante. Après ça, Apocalypse 6, là on a la description de l'ouverture des sceaux en question. Les 4 premiers sceaux qui sont décrits dans Apocalypse 6, ça représente les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Premier, c'est un cheval blanc, faux prophète. Deuxième, cheval roux, les guerres. Troisième, cheval noir, famine. Et quatrième, le cheval verdâtre, les épidémies. Cinquième sceau après, là c'est un temps de martyr, comme c'est décrit dans Matthieu 24. un temps de persécution des croyants, temps de persécution de ceux qui ont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, les gens de l'Église, mais qui seront restés derrière. D'ailleurs, à notre époque, il y a un pape qui a déjà dit, et c'est encore dans la mentalité de la papauté, que le dimanche doit être le jour à observer. Ça a été imposé au Moyen Âge et ça va être encore imposé au temps de la fin. Ça va revenir. Durant les deux premières années et demie de la Grande Détresse, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Satan va attaquer les nations israélites qui étaient supposées être la lumière du monde, mais qui se sont détournées de Dieu et qui le méprisent aujourd'hui. Satan va les attaquer. Ils ont abandonné Dieu. Et ça, on appelle cette période-là la colère de Satan. Satan aura beau jeu, Dieu va ouvrir la porte. Ça a été annoncé parce que son peuple s'est détourné de lui. La colère de Satan contre Israël physique, nos nations israélites modernes, et contre Israël spirituel, le reste de l'Église, ceux qui ne seront pas au lieu de sécurité. Après ça, on arrive au sixième sceau. Apocalypse 6, je vais vous lire deux versets. Apocalypse 6, lisons les versets 12 à 14. Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Un événement jamais vu auparavant. Ça, ce sont les signes célestes que Dieu va utiliser pour attirer l'attention du monde entier avant de laisser libre cours à sa colère pour le jour de l'Éternel, la dernière année des trois années et demie de la Grande Détresse. Puis, avant que le septième sceau soit ouvert, on voit dans la Bible qu'il y aura 144 000 personnes qui seront marquées, qui seront identifiées et marquées pour être protégées. Et je vais expliquer. 144 000 personnes qui seront marquées pour être protégées. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7, les versets 2 à 4. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. 144 000 de toutes les tribus d'Israël. On n'a pas de précision en ce qui a trait à qui ils sont au juste. Ça, c'est des choses à découvrir plus tard. Mais on voit qu'ils seront marqués pour être protégés, non pas de la grande détresse, parce qu'à ce moment-là, la grande détresse aura été commencé depuis deux années et demie. Alors, ils ne seront pas protégés de la grande détresse, mais ils vont être protégés du jour du Seigneur. Ils vont être protégés de l'année de la colère de Dieu. Encore là, on n'a pas de détails, mais c'est fascinant de voir le plan de Dieu, de voir comment Dieu travaille. Apocalypse 6, verset 17. Car le grand jour de la colère est venu et qui peut subsister? Alors, quand ça va arriver, juste avant que ça se réalise, 144 000, 12 000 de chaque tribu des nations d'Israël vont être marquées pour être protégées de la colère de Dieu. Après, on arrive au septième sceau. Vous pourrez refaire l'étude. C'est fascinant quand on prend le temps de voir les étapes. Et on a des brochures là-dessus qui peuvent nous aider aussi. Apocalypse 8, c'est le septième sceau. Vous pourrez prendre le temps de le lire au complet. Il y a toutes les étapes de ce qui va se passer. Là, vont sonner les sept trompettes que la vision de Jean nous explique et nous montre. Les sept trompettes vont sonner successivement, annonçant chacune des choses terribles. Et après, bien sûr, à la fin de ça, la septième trompette, c'est là que le Christ revient. Formidable. Apocalypse 11, juste un peu plus loin. Apocalypse chapitre 11, et voyons le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Retour du Christ, autre élément essentiel dans le plan de Dieu. Et on voit à ce moment-là que ça ne sera pas chose facile non plus, parce qu'à partir du verset 18, les nations se sont irritées. Ils n'accepteront pas le Christ encore. Pas du tout. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue, oui, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle, la plus forte grêle qu'il y aura jamais eu de l'histoire. Alors voyez-vous, c'est essentiel de savoir solidement ces choses-là, de voir l'ordre des choses, et de voir comment c'est précieux la vérité que Dieu nous a révélée, alors que le reste de l'humanité, pour le moment, ne comprend pas. Ça leur sera donné plus tard. Dieu n'est pas injuste. Ils vont avoir leur chance, mais ce n'est pas maintenant. Nous avons le privilège de connaître la vérité de Dieu, les choses à faire, et avec son aide, d'être capable d'y arriver. Mais c'est essentiel. Pour ça, je vous ai donné le sermon aujourd'hui, de savoir solidement ces choses-là. Pourquoi? Pour nous protéger des faux enseignants. Il y en a eu beaucoup, il y en a actuellement, et il y en aura sans doute beaucoup plus et beaucoup plus persuasif dans la subtilité. Alors, c'est pour ça que nous, il faut être sur des fondements absolument solides. Se protéger des faux enseignants et se protéger de diverses idées erronées des adventistes, des juifs orthodoxes, les juifs messianiques et des autres groupes qui ont chacun leur petite idée, comme on a vu, et leur façon de faire les choses qui ne sont pas bibliques. Alors, en voyant l'image comme je vous la donne aujourd'hui, ça peut nous sécuriser dans ce sens-là et nous aider à être réconfortés puis travailler à se protéger. Question. Est-ce que Dieu va permettre que ses serviteurs fidèles et zélés passent par la grande détresse? La réponse, c'est non. Les vrais croyants, les Philadelphiens, seront protégés. Il y a une claire promesse de Dieu dans les textes. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 3, et le verset 8. On peut voir à partir du verset 7, « Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. » Ça, c'est la période de l'Église avant la dernière période où laquelle on est rendu. On est rendu dans l'Odyssée, mais la période de Philadelphie, c'est sous M. Armstrong, jusqu'à après son décès, à partir des années 1930 jusqu'à son décès. Nous sommes, comme je vous mentionne, maintenant à l'ère de l'Odyssée. C'est pour ça qu'il y a tellement de dangers autour et qu'il y a du danger pour nous à l'intérieur de l'Église pour ne pas qu'on soit tiède, pour qu'on soit de tout cœur. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Gardez le verset 8. Je connais tes œuvres, en parlant de ceux qui ont l'attitude philadelphienne. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et c'est pour ça qu'on peut encore, la petite église du Dieu vivant, annoncer l'Évangile pour le moment. Un jour, ça ne sera plus possible et ce jour-là approche. Mais pour le moment, nous pouvons le faire à cause de la promesse de Dieu. Parce que nous continuons d'être fidèles dans l'annonce de l'Évangile avec les moyens que Dieu nous donne. C'est intéressant parce qu'une fois, j'en avais parlé avec M. Appartient de ça. Ça arrivait quand M. Appartient nous visitait, qu'on le ramenait en voiture à l'aéroport. Et je me rappelle souvent, il dormait dans la voiture. J'essayais de ne pas lui parler tout le temps pour qu'il ait le temps de se reposer. Je me rappelle sa grosse main. Il était sur le fauteuil à côté de moi. Et quand on parlait, ben, j'apprenais des choses. Je parlais pas trop pour pas le déranger. Mais à un moment donné, je lui avais parlé de ça, d'annoncer l'Évangile, puis tout ça. Il m'a dit, Monsieur Brochu, rappelez-vous un verset de la Bible qui dit, « Vous n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël que le Christ sera revenu. » Et je trouve ça un grand encouragement aussi, parce que oui, on y va à plein collier pour accomplir l'œuvre, mais à un moment donné, ça sera fini. On sera peut-être surpris que c'est déjà arrivé. Mais c'est bien qu'on soit surpris parce que ça veut dire qu'on sera encore en train de travailler avec zèle. Mais revenons maintenant à la protection que Dieu va accorder à ceux qui sont zélés. Verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Et persévérer, c'est pas facile. Quand il n'y a pas de problème, c'est pas dur de persévérer. On a juste à laisser passer le temps. Mais quand il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des inquiétudes autour, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'il y a des doutes, qu'il y a ci, qu'il y a ça, là, la persévérance est difficile. Mais il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, je te protégerai aussi à l'heure de la tentation, à l'heure de la détresse qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne couronne. C'est une protection unique, tellement précieuse, que Dieu promet à ses serviteurs fidèles. On sera protégé de Satan en un endroit précis sur la terre. Nous ne serons pas enlevés au ciel pour être protégés durant la grande détresse. Nous serons protégés sur la terre à un endroit précis. Allez à Apocalypse chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Très beau verset. Vous le connaissez sûrement, vous pourriez peut-être me le réciter. « Et les deux ailes du grand aigle, la puissance de Dieu, furent données à la femme, à la petite église. Pourquoi? Afin qu'elle s'envole au désert. » Et on sait que c'est pas nécessairement s'envoler en avion, là, ça peut être par d'autres moyens, mais qu'elle se rende au désert. Vers son lieu, voyez-vous, elle a un lieu, pas plusieurs lieux. Certaines personnes pensent que Dieu va protéger ses enfants dans différents lieux. Non, la Bible dit vers son lieu. Et qu'est-ce qu'elle reçoit comme autre bénédiction, en plus de la protection? Elle est nourrie. Ou elle est nourrie un temps, une année, des temps, deux années, et la moitié d'un temps, une demi-année. Pendant 3 années et demie, la femme qui sera amenée à un lieu précis, au désert que Dieu connaît, que Dieu va nous révéler en temps et lieu par ses serviteurs, la petite église de Dieu sera nourrie pendant 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Satan ne pourra pas atteindre là les fidèles serviteurs de Dieu. Par contre, certains membres de l'église devront rester derrière. On le voit au verset 17 du même chapitre 12 d'Apocalypse. Et le dragon fut irrité contre la femme, parce que la première partie de l'Église a été amenée au désert. Il reste des membres de l'Église derrière. Et là, le dragon est irrité contre la femme, le reste de la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. C'est qui? Ce sont des membres de l'Église. Ils ne seront pas protégés de Satan. Pourtant, regardez, ils observent le sabbat, ils observent les fêtes, ils paient les dîmes, ils respectent les lois alimentaires, généralement, mais ils ne sont pas de tout cœur activement impliqués à changer, à développer le caractère de Dieu, à soutenir l'œuvre et à croître personnellement dans leur façon de vivre. Ils n'ont pas mis la priorité sur Dieu et sur leur préparation. Ce sont des membres d'Église, absolument. Et parce que Dieu les aime, il va leur donner une dernière occasion, mais la dernière, une dernière occasion de se repentir pour revenir à lui. Et pour ça, il va les faire passer par la grande détresse. Il va les faire passer par la grande détresse, par la colère de Satan. Apocalypse 3. Retournons à Apocalypse chapitre 3 et commençons au verset 14, où il est question justement de ce groupe de l'Église qui n'est pas de tout cœur avec Dieu. Écrit, verset 14, à l'ange de l'Église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, c'est le Christ. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je vais te rejeter dans la grande détresse. Parce que tu dis, je suis riche, je connais la Bible, je sais tout ce que j'ai appris au cours des années, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce n'est pas le fait d'avoir du nouveau, c'est le fait de continuer de mettre en pratique les choses qu'on a apprises. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et c'est ça. L'or pourra être acheté lorsque ces gens-là passeront par l'épreuve du feu de la grande détresse. D'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, pour que tu comprennes et que là tu changes, et que tu aies des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et regardez, aie donc du zèle, repens-toi, mets tout ton cœur dans les choses que tu as à faire, parce que c'est ta dernière chance de pouvoir obtenir la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ou cet avertissement-là et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, même ceux-là qui vont passer par cette épreuve terrible, mais qui vont tenir le coup avec l'aide de Dieu. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Chaque fois que nous célébrons la fête des trompettes, nous nous approchons du jour formidable où tout ça va se réaliser. Bang! Les choses vont arriver soudainement et vont s'enclencher les unes après les autres. Et le Christ va paraître. Et les saints qui seront morts seront ramenés à la vie à ce moment-là. Et ceux d'entre nous qui seront encore physiques, vivants, seront transformés en un instant. Et c'est à ce moment-là que l'histoire va basculer vers un monde totalement nouveau, paisible, heureux, abondant. C'est Dieu qui nous donne de comprendre le sens véritable de la fête des trompettes. Nous sommes privilégiés et ça met une responsabilité sur nous, le fait de connaître ces choses-là et de savoir ce que nous avons à faire. Il faut tenir ferme pour ne pas perdre notre couronne. Et il faut rejeter tout raisonnement humain et toute tradition d'hommes, comme on a vu, qui sont contraires aux Écritures. Rappelez-vous la petite phrase que le Christ a dit à son Père dans sa prière avant d'être arrêté et d'être mis à mort. Il a dit à Dieu, « Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. » Maintenant, en terminant, reportez-vous à Luc chapitre 10, s'il vous plaît. Luc chapitre 10. Je vais vous lire et je vais vous expliquer un verset sur lequel on passe parfois sans réaliser tout ce que ça implique. Luc chapitre 10. Et vous allez voir, c'est un verset qui est tellement, tellement touchant. Ce verset-là décrit la réaction d'émotion profonde de notre Créateur et de notre Sauveur quand il pense à la précieuse vérité qui nous est donnée, à nous qui sommes baptisés et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Regardez, quand le Christ pense à la vérité qui nous est donnée, comment il ressent les choses et ça nous montre son attachement à nous. Donc, verset 20, la fin du verset 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux, c'est-à-dire dans le livre de vie, quand on se fait baptiser. Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans les cieux, dans le livre de vie. » Et regardez qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du Christ à ce moment-là, quand il a prononcé ces paroles-là. « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » Et il dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Voyez-vous l'affection incroyable du Christ lorsqu'il prononce ces paroles, son attachement total à ceux qui sont appelés, qui marchent selon ses voies et qui ont reçu la précieuse vérité qu'on doit garder de tout cœur et pour laquelle on doit manifester un grand zèle.